Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien pour vous accueillir dans cette première émission de la rentrée de Par ici les sorties. Par ici les sorties, votre magazine culturel sur les sorties en Eure-et-Loire. Et j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui les moments lyriques de Chartres et d'Eure-et-Loire. 6 concerts exceptionnels du 3 au 7 octobre placés sous la direction artistique de Eve Ruggieri, bien évidemment, car ces moments lyriques sont la dernière mouture, on va dire, des fameuses journées lyriques qui existent depuis plus de 20 ans en Eure-et-Loire, chaque année proposées par Eve Ruggieri. Je vous propose de remonter un peu le temps. Au mois de juin, Eve Ruggieri nous a conviés à une conférence de presse où elle nous a présenté ces moments lyriques. Et je vous propose tout simplement de reprendre le fil de la conversation que nous avons nouée avec Eve Ruggieri ce jour-là. Eve Ruggieri, une conférence de presse d'Eve Ruggieri, c'est pas une conférence de presse, c'est un récital, c'est une promenade contée. C'est une promenade contée. Vous nous avez régalé d'anecdotes qui sont très intéressantes parce qu'elles témoignent de votre passion intacte pour la musique. 30e édition des journées lyriques, alors ça s'appelle les moments lyriques maintenant. Et une nouveauté cette année, on peut peut-être commencer par ça, ce sont des mini-concerts pour les jeunes. Et vous avez le goût de la transmission. Je voudrais que vous nous parliez de ce qui vous est arrivé à Dreux il y a quelques années.
Alors, j'avais proposé d'aller, donc à l'initiative d'Albéric de Montgolfier, d'aller dans des collèges à Dreux, qui étaient un peu, mis à l'écart. Et donc, le proviseur me téléphone la veille de mon arrivée, il me dit « Écoutez, je n'en reviens pas, ils se sont battus pour écouter votre conférence sur Mozart. » Moi, je me dis quelle chance, mais enfin quel public, etc. Et puis j'arrive le lendemain et je vois le proviseur, l'air défait, qui me dit écoutez, il y a eu une confusion dans leur esprit parce qu'ils ont confondu avec Eve Angeli, qui était une jeune et charmante d'ailleurs chanteuse de variété. Et j'ai dit ah bon ? Et alors ? Ben alors il me dit ils ne sont plus qu'une vingtaine. Ben j'ai dit écoutez, tant pis, hein. Donc j'y suis allée et j'avais amené avec moi une jeune chanteuse classique que j'avais été piquée au conservatoire de Paris, qui était extrêmement mignonne et qui avait 2 ans de plus qu'eux, quoi. Donc avec les jeans à trous, tout ça. Et donc j'ai commencé à leur parler de Mozart en le présentant un peu comme le film Amadeus, vous voyez, c'est-à-dire quand même branché. Et je me dis que petit à petit, quand même, dans les 20, il y en avait qui avaient l'air vraiment intéressés. Et puis on en est arrivé à un extrait, donc elle a chanté. Et là, stupeur dans cette petite salle, et je leur dis alors qu'est-ce que vous en pensez? Et alors unanimement, ils m'ont dit où est le micro? J'ai dit, mais elle n'a pas de micro. Et là, je me suis dit, c'est le moment de faire usage de mes grandes connaissances en sport. Et j'ai dit, vous voyez, Bolt, par exemple, hein, superstar du 100 mètres, il peut arriver à faire ça parce qu'il a fait des travaux sur les muscles, bien sûr, mais aussi sur le souffle. Eh bien, les chanteurs, c'est pareil, c'est les mêmes. Alors, je vais expliquer ça, c'est un peu compliqué, technique, du coup. Ils étaient tous passionnés. Elle a rechanté une deuxième fois, donc là, applaudissements alors qu'ils étaient restés. Et puis, le proviseur me dit, est-ce que vous reviendrez l'année prochaine? J'ai dit, écoutez, oui, pourquoi pas, maintenant qu'ils savent qui je suis. Donc, je reviens l'année prochaine, et là, je vois le proviseur au moment d'entrer dans la salle qui me dit, je dois vous prévenir qu'ils vous ont préparé une surprise. Avec le côté, je ne sais pas trop ce que c'est. Et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça va être? Donc je rentre, et là je tombe sur quoi? Un petit orchestre qu'ils avaient composé eux-mêmes, avec leurs instruments à eux. Il y avait une guitare, il y avait des percussions, etc. Pour me donner un concert. Je dois dire que j'avais les larmes aux yeux, parce que c'était tellement mignon, et c'était tellement inattendu. Et je les ai tous invités à venir assister le soir au théâtre, à Dreux. Et tout le monde m'avait dit, vous savez, ils viendront pas. Ou les parents les laisseront pas sortir, ou... Et en fait, toute la classe était là, tellement sage que je ne les avais pas entendus. Et donc, à la fin, je vois le régisseur affolé qui arrive et qui me dit « Madame Ruggieri, dépêchez-vous ». Je dis « Pourquoi ?» Il me dit « ils sont là, hein, les gamins, et ils sont perchés sur des tabourets, et vos chanteurs sont en train d'ouvrir des becs d'alligators parce qu'ils veulent voir les cordes vocales. » Et je dois dire que c'était une expérience. Voilà, moi j'aime ce genre de rencontre, j'aime ça parce que brusquement, je suis dans mon élément là. Je suis le charmeur de serpent.
Alors c'est vous qui allez leur proposer une jolie surprise avec Stravinsky cette année.
Alors c'est moi et c'est pas moi, puisque moi je participe pas au spectacle, mais j'ai pensé qu'il fallait peut-être les amener vers la musique du XXe siècle, et en tout cas du XXe siècle. Parce que grosso modo, quand je regarde le programme, on va de je dirais, classique pour certains, je ne sais plus de quel côté c'est, voilà, j'ai trouvé la bonne page. Avec par exemple Manuel de Falla. Hein, Manuel de Falla, il était au début du XXe siècle en France, à Paris. Stravinsky, c'est Le Sacre du Printemps, c'est 1913. Donc c'est vraiment le XXe siècle. Mais des airs bohémiens de Sarrasate, de la musique cubaine, avec percussion et tout, et puis Gershwin. Donc il va y avoir deux comédiens qui vont jouer avec eux à travers ce voyage musical, qui est mis en scène par Marine Garcia-Garnier, qui est une jeune femme très douée pour faire participer le public. C'est un art, ça. Hein. Faire entrer le public dans un jeu, c'est pas évident, surtout avec des enfants qui sont souvent plus conscients du ridicule que les adultes. Donc, ils sont toujours assez réservés. Et donc, c'est un très joli spectacle qui est offert, évidemment, gratuitement par le président du Conseil général, M. Thierry Noir, aux enfants, et avec un tarif très préférentiel pour les parents, et c'est donné deux fois. Donc ça, oui, ça c'est vraiment nouveau et c'est une très très bonne idée.
Et pourquoi s'ouvrir justement au jeune public cette année, au bout de 30 éditions? Qu'est-ce qui vous a motivé finalement à aller chercher ce jeune public?
Ben, d'une certaine manière, c'est une préoccupation que j'ai depuis très longtemps. Hein. Donc, il n'y a pas qu'à Dreux que je suis allée plusieurs fois parler à des jeunes, souvent dans des conditions un peu exotiques d'ailleurs. Mais en général, ça se passe bien. Mais parce qu'il faut, moi je suis souvent sur scène, donc mon public est en face de moi, et le moins qu'on puisse dire, c'est que... En tout cas, à l'orchestre, on ne voit pas beaucoup de jeunes. On les voit tout à fait au poulailler, dans des places, et encore. Donc, il y a tous les directeurs d'opéra le savent, de salles le savent. Il faut former le public qui va prendre la relève. Jusque-là, ça avance à pas de fourmis. Hein. Ça avance dans des conditions bien particulières. Les festivals d'été, par exemple, Avignon, est un tremplin sympathique, parce que les jeunes peuvent y aller comme ils sont. Ils ont toujours regardé, même si on leur dit qu'on peut maintenant aller à l'opéra en jean, quand on est un petit peu plus haut dans la salle, et ils ont quand même ce réflexe de dire oh, je ne sais pas comment m'habiller pour y aller, et puis je ne vais pas rencontrer de copains. Enfin, c'est pas évident. Hein. Ça avance à pas de fourmi. Moi, je pensais que ça irait plus vite, et ça ne va pas plus vite. Donc, je trouve que c'est bien quand on peut, dès le début. Et en fait, quand ils rentrent là-dedans, ils ont une spontanéité, un naturel à témoigner leur plaisir que les gens dits informés n'ont pas toujours, hein. Loin s'en faut. Donc, moi, c'est un public que je privilégie quand je le peux. Et le fait de raconter la musique, je pourrais, hein, je suis née là-dedans. Là, je viens de faire un dictionnaire amoureux de Mozart, il y a 800 pages. C'est un livre où même les critiques les plus aigries n'ont rien trouvé à redire, parce que j'ai fait acte de ce que je sais faire aussi. Mais je crois que si vous êtes avec quelqu'un que vous aimez passionnément et que vous commencez à lui dire je pense que ce qui se passe entre nous, il doit y avoir tant d'intensité, d'électricité, puis tant de chimie, et puis tant... au bout d'un moment, on se dit, mais qu'est-ce que je fais dans ses bras? Alors que si on dit, tu me manques, je suis tellement heureuse d'être avec toi, embrasse-moi, serre-moi, là, ça fait passer autrement les émotions. Et moi, mon travail, c'est pas de dire... alors, vous aurez reconnu la battue de Fürth Wengler dans cet opus 81, Köchel, machin. Et après, vous dites aux gens qui vous font ça. Et au fait, qu'est-ce que ça veut dire? Köchel. Et alors là, bouche bée, ils savent pas. Ils savent pas que le cas de M. Köchel, c'est un monsieur, justement, qui avait fait un catalogue des œuvres de Mozart. mais ils font les malins quand même. Et donc, voilà, moi j'essaie de pas... de ne pas rentrer dans cette catégorie qui ferme les portes. Moi, j'appelle ça les chiens de garde de la culture. Je déteste ça. Ce qu'ils savent, ils ne veulent pas le partager. Ils vous l'offrent comme ça, du bout des lèvres. Bon, moi, je ne suis pas comme ça. J'ai été élevée dans une famille de musiciens où on croisait aussi bien des grands artistes comme Samson François que Dario Moreno, parce que ça avait été un copain de conservatoire de mon père, ou le philosophe, je ne sais plus comment il s'appelait. Mais tout ça se retrouvait ensemble et les gens parlaient ensemble, s'amusaient, riaient. Il n'y avait pas cette espèce de barrière là. Je sais des choses que vous ne savez pas.
Ces barrières, est-ce qu'elles ont toujours existé? Parce que là, je vois par exemple que le jeudi 4 octobre à 20h30 au château de Maintenon, vous allez nous proposer une soirée chez Maria Malibran. C'était un salon. Bah, tout le monde se retrouvait dans les salons finalement.
Oui, enfin, une certaine catégorie de personnes. C'est-à-dire que c'était la plupart du temps soit des aristocrates qui avaient beaucoup d'argent, ça c'était surtout au XVIIIe siècle, tous les mécènes appartenaient à l'aristocratie, à la grande aristocratie, soit au XIXe siècle chez les industriels. Il y avait des grands salons qui étaient tenus par les épouses de grands industriels et qui étaient formidables parce qu'effectivement ils avaient les moyens par exemple de donner de l'argent aux compositeurs pour éditer leurs œuvres. Rien que ça, ça coûte très cher. Donc si vous êtes un jeune compositeur débutant, il faut se faire éditer, il faut pouvoir s'habiller à un minimum pour... Il y a que Satie, le pauvre Satie, qui était mécénée par la dame des machines à coudre, qui avait donc une fortune considérable et qui avait un hôtel particulier à Neuilly. Et lui habitait à Saint-Ouen, enfin à côté de Saint-Ouen, dans une banlieue où il habitait une mansarde misérable. Et donc il est arrivé, comme il pleuvait beaucoup, il avait mis des pinces à vélo pour tenir ses bas de pantalon. Et il est rentré comme ça dans le salon et cette dame, qui était bien élevée, lui a dit « Mais comme c'est gentil d'être venu par ce temps déplorable. » Il lui a dit « Oh, vous savez, je suis venu en voisin. » En fait, il avait fait 10 kilomètres à pied, celui-là. Et c'était, voilà, dans ces salons, mais ça restait ouvert, c'était pas ouvert à tout le monde, c'était ouvert aux artistes. Mais ce n'est pas ouvert à un public qui avait peut-être envie de les entendre aussi, qui les retrouverait après. C'était réservé, c'était à usage exclusif des artistes. Mais tous artistes confondus, c'est-à-dire que voilà, Proust pouvait être là un soir. Après, il y avait tout ce qui tournait autour de Cocteau, tous ces gens-là, qui se retrouvaient au Bœuf sur le Toit et puis chez quelques mécènes. Voilà.
Un mot sur le retour de Chartres avec la cathédrale qui va accueillir du baroque. Ça va bien ensemble, cathédrale et baroque?
Rien ne va avec les cathédrales, sauf les voix a cappella et l'orgue. Donc une fois qu'on est bien persuadé de ça, on a, Dieu merci aujourd'hui, des moyens techniques qui essaient de lutter contre la réverbération qui est parfois très, très longue, très ample. Ce qui fait qu'on me dit toujours avant de... quand je monte sur l'estrade pour présenter, Madame Ruggieri, parlez lentement parce qu'il y a de la réverbération. Et moi, c'est vraiment le contraire de mon naturel. Donc j'y pense les deux premières phrases et après j'oublie complètement. Mais non, c'est compliqué, c'était pas fait pour ça. Les cathédrales, c'est des gens qui chantaient a cappella. Ou après, avec Bach, on arrive avec les grands orgues. Mais j'ai donné pour le... On m'avait demandé de faire un programme où j'avais fait d'ailleurs le Stabat Mater de Pergolèse pour le 1000e anniversaire de Rocamadour. Et on se trouve, pour ceux qui connaissent, cette chapelle qui est perchée tout à fait au sommet de cette énorme colline. Et c'est une petite chapelle. Et j'avais très peur parce que j'avais fait venir un sublime contre-ténor espagnol que j'aime beaucoup, Carlos Mena. Et je me suis dit, pourvu qu'il n'y ait pas trop de réverbération. Et là, miracle, peut-être parce que je ne sais pas. Il y avait un miracle. Et c'était absolument somptueux. Mais c'est toujours ma hantise, c'est-à-dire pourvu qu'il n'y ait pas trop de réverbération. Mais voilà, bon, on fait avec. Parce qu'en même temps, il y a la somptuosité souvent de l'architecture, du décor. Quand je fais des concerts en Italie, dans certaines églises baroques, on se dit, on regrette d'en sortir, tellement c'est beau. Donc voilà, on essaie de négocier avec la réverbération.
Alors deux mots peut-être sur Carmen. Vous allez compter Carmen, c'est une histoire avec pleine de croix et de bosses. Et vous l'avez dit, c'est une vraie machine à tubes. C'est un chef-d'œuvre de la musique, mais c'est aussi une machine à tubes.
Ben, il y a pratiquement deux tubes par acte, quoi. Dès le début, redoutable pour le malheureux ténor, d'ailleurs, il y a la fleur que tu m'avais jetée, où il faut attraper le dernier aigu. Ça va bien jusqu'aux dernières mesures. Et là, juste à la fin, il a collé cet aigu qui est fatal à des jeunes ténors. Donc, il y a ça. Il y a les deux airs de Carmen, hein. La Séguédille, et puis Si tu ne m'aimes pas, je t'aime, scène de séduction. Après, il y a l'arrivée du Toréador. Il y a l'air de Michaela aussi qui est très jolie. Le Toréador, puis toute la fin qui est somptueuse. L'air des cartes, où Carmen se tire les cartes et tombe sur la mort trois fois. Et là, il y a une espèce d'accompagnement en dessous. Quand elle commence, elle tire, dit la mort. Elle recommence la mort trois fois, et derrière il y a une musique qui commence à monter comme ça, qui est tragique, avec des couleurs sombres, magnifique. C'est une partition absolument géniale, et tellement géniale parce qu'on l'a entendu tellement mal chanter, à force d'être chanté tout le temps partout, parce qu'on sait que ça remporte du succès, eh ben, on continue à être bouleversé quand on l'entend, parce que c'est la partition extraordinaire.
Oui, vous l'avez entendu avec Il Maestro, mais le grand.
Moi, je l'ai entendu, mais ça, c'était en concert. Hein. Donc, c'était un air avec Pavarotti. Mais là, c'est un jeune ténor que j'adore, qui est un Corse. C'est mieux un Corse, celui-là. Parce qu'il a, pour arriver à le faire se taire. J'ai dit, mais économise ta voix, Jean-François. Arrête de chanter tout le temps. Tu fatigues tes cordes vocales. Mais Madame Rogerie, mes cordes vocales, elles vont très bien. Ben oui, ça. Mais il est formidable. Je suis contente de le présenter parce que il y croit, quoi. Dur comme fer. Il a des facilités étonnantes. Et là, la stature, oui, d'un Pavarotti à venir, s'il ne fait pas de bêtises. Il est vraiment étonnant. Et la Carmen est formidable aussi. Très belle voix, avec des graves magnifiques.
C'est une œuvre doublement tragique, parce que ça, je l'ignorais totalement. Bizet n'en a pas connu le succès, en fait. Hein.
Mais non, le pauvre Bizet avait été engagé à l'Opéra Comique, et toute sa vie, il va rêver d'y être, non pas en tant qu'instrumentiste, mais comme compositeur. Et puis, ça ne se fait pas. Et puis, enfin, il y est. Et il est déjà très gravement malade. Et il va mourir avant de savoir que c'est un succès. Il ne le saura jamais. Et ça, je trouve ça tellement tragique. Parce qu'il aurait su, ça aurait adouci ses derniers moments, certainement. Et là, il n'a jamais su. Parce que la première a été un four effroyable. Où tout le monde a sifflé, injurié tout le monde. Il faut dire qu'on sortait quand même de périodes qui avaient été très agitées. Il y avait eu la guerre de 14-18 avant, et puis la Commune, qu'on a oubliée, qui avait fait quand même 30 000 morts, la Commune, c'est pas rien, où les Français tiraient sur les Français quand même. Et parmi les insurgés de Montmartre, il y avait Louise Michel, qui avait été expédiée au bagne. Et donc, de voir brusquement arriver sur scène une femme qui dit « Moi, je choisis mes amants, et puis si tu ne m'aimes pas, prends garde à toi. Tu vas voir, ça va être ta fête, grosso modo. » Devant, on appelait l'opéra comique l'opéra des familles, parce qu'on donnait des petits spectacles de ballet, La mort du cygne, des petites comédies musicales, Ciboulette, des choses comme ça. Bon. Et on l'appelait l'opéra des familles parce que les bourgeois amenaient leurs enfants pour les faire se rencontrer et nouer des mariages. Alors là, ça commençait bien. Déjà sur scène, il y avait une gitane, une bohémienne, autant dire une rien du tout, qui arrivait, qui disait, qui choisissait Don José et qui disait attention, si tu ne m'aimes pas, je t'aime, et si je t'aime, prends garde à toi. Et après, qu'il prenait un amant comme on change de robe. Et au milieu de tout ça, la jeune fille de bonne famille, la fiancée de Don José, celle qui était représentée à X nombre dans la salle se faisait prendre le fiancé par la bohémienne, et pire, elle fait déserter un soldat. On sortait de la guerre où ceux qui désertaient étaient considérés comme des catastrophes et fusillés sur place. Donc il y avait non seulement tout ça, mais en plus un déserteur qui suivait des contrebandiers, c'est-à-dire des trafiquants.
C'était de la contre-culture déjà.
Et absolument, et en plus un meurtre sur scène. Ce qui s'était jamais vu, quoi. D'un seul coup, à la fin, c'est dur, hein, à la fin, quand c'est bien chanté et bien joué, c'est horrible. Et d'ailleurs, ça a été repris par Visconti dans ce premier film qu'il avait fait, qui était génial, qui s'appelait Rocco et ses frères, où à la fin, je ne sais plus comment, le comédien poignarde Annie Girardot, qui est comme ça, les bras écartés, et presque tous les metteurs en scène la font mourir comme ça, c'est-à-dire les bras écartés. Et il lui enfonce le poignard dans le cœur. Les gens étaient horrifiés. Et les directeurs de l'Opéra Comique avaient tellement compris que ça risquait de mal se passer qu'ils devaient remettre la Légion d'honneur à Bizet après l'opéra sur scène. Et qu'ils l'ont remise un jour avant en se disant après ça sera plus possible. Et effectivement, c'était plus possible. Il serait fait lâcher par les gens. Donc le pauvre Bizet, ben voilà, il est mort sans savoir que Carmen, aujourd'hui, remplit encore les salles.
Toute dernière question pour moi, que vous souhaitez pour cette 30e édition ? Parce que ça fait déjà 30 ans, c'est quand même...
Écoutez, que ce soit une belle continuité de tous les beaux spectacles qu'on a déjà fait ici, où on a fait découvrir beaucoup de grands noms aujourd'hui de l'opéra, entre autres, et même des instrumentistes. De temps en temps, je tombe sur des jeunes instrumentistes qui ne sont plus jeunes, tout à fait, mais qui me disent, ah, vous rappelez, j'ai débuté ayant Cheva. Yancheva, qui maintenant chante Traviata dans le monde entier, a chanté sa première Traviata il y a quoi, 3 ans ici, 3-4 ans. Donc voilà, que ce soit la continuité, avec ce plus auquel je suis très attachée, qui est l'ouverture à ces jeunes dont on avait vraiment besoin, à travers des spectacles, des vrais spectacles, gratuits. Ça, je trouve que c'est une excellente idée, je suis contente de l'avoir inclus dans le... Dans cette 30e édition, tout ça ne nous rajeunit pas. Enfin, vous avez la marge. Attendez.
Moi, j'ai une toute dernière question. Vous l'avez dit, vous venez d'une famille de musiciens, vous avez baigné dans la musique toute votre enfance. Pourquoi avez-vous choisi de mettre en lumière la voix humaine ?
Ben, j'ai découvert ça très tard. Parce que moi j'étais instrumentiste dans une famille d'instrumentistes, et donc on ne mélange pas, hein. C'est amusant d'ailleurs, c'est rare de voir un orchestre avoir des amis sur la scène. On écoute, on félicite le cas échéant, mais ça s'arrête là, c'est pas le même monde. Et donc moi je regardais l'opéra et je riais parce qu'il y avait que des grosses dames à l'époque. Il n'y avait pas Netrebko, Yancheva et toutes ces filles qui pourraient être mannequins, enfin pas mannequins, mais rentrer dans un film qui ont des corps de rêve. Donc c'était Caballé et des dames un peu pulpeuses, on va dire. Donc ça me faisait rire aux éclats. Je me disais, comment peut-on... Mais je voyais mes parents assis devant la télévision qui regardaient les retransmissions d'opéra. Ils étaient fous d'opéra. Et je me disais, oh, c'est ridicule, moi j'irai jamais, etc. Et puis, un beau jour, c'est la télévision qui m'a amenée vers ça. Parce qu'il y avait déjà le Grand Échiquier, qui était toute musique un peu. Mais il n'y avait pas d'émission d'opéra. Il y avait eu des émissions de musique qui avaient été faites, très bien, certaines, mais il n'y avait rien sur l'opéra. Et je me suis dit, il faut que je m'y mette. Et j'en ai parlé donc, quand des groupes m'ont engagé. Il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez faire ? Je voudrais quelque chose qui soit que de la musique. Pas le Grand Échiquier, où il y a aussi des par exemple, l'humoriste qui était tout le temps, qui était de Vos génie. Il ne voulait pas de mélange. Il voulait une émission qui soit que de la musique. Et j'ai dit, moi, je ferais bien l'opéra. Et donc, ben, je m'y suis mise. J'ai écouté, j'avais je ne sais pas combien de disques à la maison. Donc j'ai écouté ça, j'ai comparé les versions enregistrées, puis je suis allée voir plusieurs grands festivals. Et très rapidement, mais bon, j'avais pris 10 ans de plus, hein, donc mon oreille avait changé aussi. Et puis j'ai découvert cette espèce de ce que je disais à la conférence de presse, c'est-à-dire de magie de la voix. ces deux petits morceaux de chair, filaments de rien du tout, le pouvoir que ça peut avoir. Et c'est même parfois dangereux. Regardez les prédicateurs des sectes. Ça repose sur quoi? Sur leur voix, sur rien d'autre. Et ils entraînent, hélas, des publics très nombreux vers des voies sans issue la plupart du temps. Mais ça repose là-dessus. Donc je me suis laissée prendre à ça. À part que moi, mes divas entraînent vers un monde meilleur.
On écouterait Ruggieri pendant des heures, mais vous aurez l'occasion de l'écouter entre le 3 et le 7 octobre à l'occasion des moments lyriques de Chartres et d'Eure-et-Loir. 6 concerts exceptionnels du 3 au 7 octobre avec notamment au château de Maintenon jeudi 4 à 20h30 une soirée chez Maria Malibran avec Laure Berthe soprano et David Zabel au piano, une présentation évidemment d'Ève Ruggieri à la cathédrale le vendredi 5 octobre à 20h45, les chefs-d'œuvre du baroque, le Stabat Mater de Pergolèse et Dixit Dominus d'Haendel. Et puis n'oubliez pas les Prairiales à Épernon samedi 6 octobre à 20h30, Ève Ruggieri raconte Carmen, on en a beaucoup parlé au cours de cette émission, c'est un moment à ne pas manquer bien évidemment. Beethoven et ses maîtres dimanche 7 octobre à l'église d'Illiers-Combray à 17h. Et puis les petits moments lyriques, ce sera pour les enfants. Renseignements et réservations au 02 37 84 01 14. 02 37 84 01 14. Voilà, excellente fin de journée à toutes et à tous. Je vous retrouve dans 4 semaines pour une prochaine édition Chartraine de Paris, s'il est sorti.